là, les Républicains vont mettre le paquet. Parce que tout simplement, pour eux, c'est une question politique fondamentale. Il faut en quelque sorte montrer que l'histoire de France est une religion laïque. Et ils vont avoir avec Lavis, Ernest Lavis, dont Pierre Nora a dit à juste titre qu'il était l'instituteur national. Et Pierre Nora a raison. C'est lui qui va former, en quelque sorte, tous les petits Français entre les années Jules Ferry, c'est-à-dire 1880, et bien longtemps après sa mort. Je crois que Lavis est mort en 1922, mais les dernières éditions de son petit Lavis sont de 1946. Donc Lavis est quelqu'un qui va faire de l'histoire de France une histoire sainte, qui va considérer que l'histoire de France doit remplacer le catéchisme diocésain, qui était en usage jusqu'alors dans les écoles, aussi bien laïques que confessionnelles. Désormais, avec Jules Ferry, l'espace de l'école devient laïque, c'est-à-dire qu'on n'y enseigne pas la religion. Et comme Jules Ferry n'est pas un sectaire, il a créé le jeudi pour que les enfants chrétiens puissent aller, soit les protestants vont à l'école du dimanche, soit les catholiques vont le jeudi chez le curé pour recevoir le catéchisme. Mais à l'intérieur de l'école primaire laïque, on n'enseigne pas la religion, ou plutôt on enseigne la religion qui est celle de l'histoire de France comme une histoire sainte, comme une histoire sainte. Depuis nos ancêtres les Gaulois, qui cette fois-ci sont de manière très claire désignés comme nos ancêtres, Clovis n'étant qu'un brigand, un homme qui a assassiné tous ceux qui lui faisaient de l'ombrage, et le baptême de Clovis étant réduit à un épisode secondaire. Bon. Sauf bien sûr dans les manuels confessionnels, bien entendu. Bon. Et le génie de Lavis, c'est d'avoir en quelque sorte, dans ces manuels, réussi trois choses. La première, c'est de faire passer dans ce récit national ce qui était l'essence du roman national chez Michelet. C'est-à-dire de faire comprendre que l'histoire de France était l'histoire d'une personne qui avait un début, au fond, nos ancêtres les Gaulois. Et le Moyen-Âge, c'est la naissance du peuple français, c'est l'enfance du peuple français. On se penche sur lui avec la même affection que l'on se penche sur le berceau de l'enfant qui vient de naître. La Renaissance, avec la réforme de Luther et de Calvin, avec Rabelais, c'est en quelque sorte l'adolescence où on commence à remettre en question un certain nombre de dogmes, ceux de l'Église, bien entendu, ceux de la monarchie, ceux de la noblesse. Et puis, avec la Révolution, le français atteint l'âge adulte et désormais il signifie à ses tuteurs, un peu encombrants, l'Église, la monarchie, la noblesse, que désormais c'est fini, il se gouvernera tout seul puisqu'il a atteint l'âge de la maturité. Deuxième élément, Lavis a un art consommé pour se faire comprendre des petits paysans. Et il va leur dire, tu vois, au fond, l'histoire de France, c'est comme la propriété de tes parents et de tes grands-parents. L'arrière-grand-père avait quelques petits champs. Et puis, à la force du labeur, ton père a réussi à acheter à côté quelques arpents de terre qui sont venus s'ajouter. Alors, et puis, toi-même, eh bien, tu rajouteras un ou deux champs. Et tu vas faire en sorte qu'à ta mort, lorsque tu céderas ta propriété à tes propres enfants, eh bien, tu auras doublé ou triplé la surface. Mais tu vois, les rois de France, depuis Philippe Auguste jusqu'à Louis XIV, ils ont fait la même chose. Leur politique, ça a été de rajouter au domaine royal initial de Hugues Capet, qui était minuscule, des provinces riches. Philippe Auguste a porté la Normandie, puis Mazarin a conquis l'Artois, l'Alsace et le pays catalan, le Roussillon, etc. Chacun, Louis XIV, a apporté la Franche-Comté, etc. Sous Louis XV, la Lorraine a rejoint la France. Il va montrer comment, en quelque sorte, l'agrandissement du pré-national, c'est un peu la même chose que l'histoire de la famille. Et ça, je trouve que c'est une idée géniale, parce que les petits paysans pouvaient parfaitement comprendre cette histoire-là. Enfin, la troisième idée, c'est qu'il y a une continuité. Bon, beaucoup, les plus radicaux, vont dire « la France naît avec la Révolution ». Lavis dira « non, l'histoire de France, elle naît avec nos ancêtres les Gaulois. Il y a de bons rois, ben, ce qui, en quelque sorte, complète le domaine royal, le précaré royal, c'est Philippe Auguste, c'est Louis XI, un méchant bonhomme. C'est vrai que sa politique n'a rien à voir avec la morale, il ne faut surtout pas le suivre, mais il a mis fin à la terreur qu'exerçait Charles le Téméraire, qui disait « j'aime tellement la France que j'aimerais qu'il y en ait deux ou trois ». Et c'est lui qui a vaincu le Téméraire, qui voulait démembrer la France. Donc Louis XI, on lui rend hommage. Oui, c'est un méchant homme, il mentait, c'est pas beau, mais il le faisait pour le bien de l'État, pour la raison d'État. Et on voit le résultat. Richelieu, c'est pareil. Bon, c'est pas un personnage très sympathique, mais il a réussi à vaincre la maison d'Autriche. Mazarin, c'est un personnage très important parce que, quoi qu'italien, eh bien, il a laissé la France beaucoup plus grande qu'il avait trouvée. Donc, il y a une continuité qui dépasse les guerres de religion, la Révolution. Ce qui est important, c'est la France. Et puis, conclusion de ces trois idées forces chez Lavis, un Michelet en puissance, en quelque sorte, qui dit aux petits Français, maintenant, que tu connais l'histoire de la France, que tu sais d'où elle vient, comment elle a été faite, tu dois être prêt à verser ton sang pour la défendre et pour permettre qu'elle récupère l'Alsace-Lorraine que de méchants voisins nous ont prise en 1871. Donc là, la vie, c'est un langage, c'est le récit national qui doit en quelque sorte favoriser l'unité nationale. Donc on peut dire que ça a parfaitement marché.